Il y a une urgence à changer.
On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager.
Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort.
Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste.
C'est un métier qui demande du temps.
De l'empathie, c'est dur.
C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des...
À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie.
S'engager, c'est prendre ses responsabilités.
Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple.
Et lâche rien, fonce et avance quoi.
Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast du Figaro qui donne la parole à ceux qui nous aident à voir plus loin. Et notre invité d'aujourd'hui nous aide à voir plus haut. Blaise Agresti est montagnard et sauveteur de haute montagne. Il nous parle aujourd'hui depuis Chamonix. Bonjour Blaise.
Bonjour.
Blaise, vous êtes diplômé de Saint-Cyr, de l'école de guerre. Vous avez dirigé pendant plus de 20 ans diverses unités opérationnelles, notamment le prestigieux peloton de gendarmerie de haute montagne, le PGHM de Chamonix. Et puis vous avez changé de voie. Vous avez créé en 2017 Mountain Path, un cabinet de formation en altitude. Vous nous raconterez cela. Vous avez écrit 3 ouvrages et vous êtes sur le point d'en publier un 4e sur l'alpinisme au féminin. Vos conseils de management et de vie s'appuient bien sûr sur votre expérience, mais aussi sur 2 siècles d'alpinisme et de secours en montagne, du drame d'Henri et Vincent Don à celui de René de Maison et Serge Gousseau et plein d'autres. Alors j'ai une première question. Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir militaire et à exercer le secours en montagne ?
Alors, moi j'ai eu un parcours de... J'ai eu la chance de grandir dans un monde de la haute montagne avec des parents qui étaient passionnés d'aventure, d'exploration. Donc j'ai pu grimper très petit, j'ai pu faire l'escalade, grimper le Mont Blanc, j'étais relativement jeune. Et le scoutisme, en parallèle de cette expérience de la nature et de la montagne que j'ai eue au sein de la famille, a été aussi un déclencheur de la question de l'engagement sur le fait de dire je peux être utile à quelque chose qui est au-delà de ma passion de l'alpinisme ou de l'escalade, qui est quelque chose qui est assez centré sur soi. Donc le scoutisme a été le déclencheur, je pense, assez fort de la vocation militaire Saint-Cyr, et puis ensuite le secours en montagne. Évidemment, quand je suis rentré à Saint-Cyr, je n'avais qu'une obsession, c'était d'aller en montagne quand même, évidemment.
Et donc vous avez commencé très jeune le sauvetage en montagne après votre sortie de Saint-Cyr et de l'école de guerre ?
J'ai eu la chance d'être nommé très très jeune en fait à la tête du PGHM, j'avais 27 ans, tout jeune, le plus jeune de l'unité à l'époque hein. D'ailleurs, j'étais le patron on va dire et le plus jeune dans l'unité, très très particulier d'ailleurs en termes d'expérience du leadership évidemment. Finalement 2 ans d'apprentissage au sein de l'institution et puis tout de suite les opérations de sauvetage, une première année, donc je suis arrivé en 98 au PGHM et avec une année qui a été assez compliquée dans la vallée de Chamonix parce qu'il y a eu des gros événements, notamment une avalanche.
Alors racontez-nous justement cette première, vous en parlez dans l'ouvrage sur cette avalanche, ça a été votre première expérience au PGHM ?
Quasiment, alors pas complètement, parce que je suis arrivé à l'été et l'avalanche a eu lieu 7-8 mois après, donc il y avait quand même eu déjà des sauvetages un petit peu dans tous les terrains en fait, hein, que ce soit des recherches de personnes disparues, que ce soit des avalanches, que ce soit des secours un peu plus techniques en cascade de glace, etc. Donc il y avait eu tout ça avant. Il y a eu notamment à la fin du mois de janvier 99 un secours compliqué qui a duré longtemps, qui a duré 5 jours, qui a fait l'objet d'une médiatisation nationale, donc on a vu TF1, France 2, etc. à l'époque qui nous avait suivis. Donc première pression un peu opérationnelle et médiatique. Et quelques jours après, effectivement, cette avalanche qui a balayé un village dans le haut de la vallée de Chamonix, donc le hameau de Mont-Roc, avalanche qui a détruit 20 chalets, qui a emporté 12 personnes qui sont décédées dans cette affaire. Tout de suite, une responsabilité particulière qui est de coordonner les opérations sur une catastrophe. Donc ça a été une sacrée expérience, effectivement, qui a été marquante pour tout le restant de ma vie professionnelle.
Quelles sont, selon vous, les principales qualités d'un sauveteur en montagne, en dehors de l'aspect physique et de, évidemment, une très grande dextérité en alpinisme et en montagne, mais au-delà de ça?
Alors, c'est une super question, parce qu'effectivement, c'est une question qu'on doit se poser tout le temps, en fait. Hein. Quelles sont les qualités fondamentales? C'est une question qu'on a en permanence. Je pense qu'il y a déjà une première posture générale qui est celle de l'humilité. Enfin, on peut pas aborder la haute montagne sans avoir une grande prudence, une grande vigilance et une très grande humilité. Donc, je pense que ça, c'est vraiment les qualités socles qui sont un peu en profondeur dans la sélection des humains qui participent à ça, que ce soit des femmes ou des hommes, hein, parce qu'il y a des femmes qui font aujourd'hui du sauvetage en montagne. La deuxième qualité, pour moi, c'est une forme de lucidité sur les risques. C'est-à-dire avoir une grande compréhension de ce que c'est qu'un risque. Un risque, alors, extérieur. Les chutes de pierres, les avalanches, enfin voilà, mais les risques intérieurs sur le facteur humain, c'est comment les humains fabriquent de l'erreur. Donc chacun des secouristes doit aussi avoir une sensibilité à ces questions-là pour aller vers la décision. Parce qu'en permanence, ce sont des métiers où on décide la stratégie d'engagement, les moyens qu'on va y mettre, les ressources, etc. Donc finalement l'aptitude principale qu'on essaie de générer au sein des équipiers, des équipes de secours en montagne, c'est cette capacité à décider.
À quoi on pense quand souvent vous décollez en hélicoptère pour aller faire un sauvetage ? À quoi on pense quand on décolle pour partir en mission et pour partir sauver quelqu'un qui est disparu ou dont on sait où il est ? Et pour le sauver ?
Alors, il faut voir que ce déplacement en hélicoptère entre la base où l'alerte a été reçue, en fait, hein, on a des informations qui sont arrivées avec des éléments sur l'accident, qu'est-ce qui s'est passé, où ça s'est passé, etc. On est dans un travail d'équipe, en fait. Ce fameux temps de brainstorm et de briefing, il se fait dans l'hélico souvent. C'est un temps très actif, en fait. On n'est pas dans une contemplation, on fait pas un vol panoramique pour observer la montagne, la beauté de la montagne. Parfois, ça nous arrive, mais enfin, en tout cas, pas sur un engagement, sur une opération de sauvetage. Et donc, c'est un temps qui est extrêmement utile pour s'ajuster, pour se parler, pour réévaluer, pour refaire une narration précise de ce qui peut nous amener à prendre une option A, B ou C.
Des missions de sauvetage, vous en avez vécu beaucoup. Vous en avez certainement beaucoup en tête. Est-ce qu'il y en a une qui vous en a particulièrement marqué ? Vous avez parlé de la première au début de votre poste au PGHM, mais il y en a eu certainement plein. Est-ce qu'il y en a une qui s'est bien terminée, mal terminée ? Puis après, on va voir ce que c'est bien terminé et mal terminé. D'ailleurs, je pense que c'est une vraie question. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué, que vous pouvez nous raconter pour qu'on se représente ?
Il y en a bien sûr plein. On peut les trier avec différentes grilles de lecture, en fait. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est à un moment donné, est-ce que la volonté humaine est capable de faire basculer l'histoire du bon côté, en fait ? Moi, si on fait ces métiers, c'est pour se dire qu'à un moment donné, par son action individuelle et collective, hein, on est toujours sur un collectif qui agit, on fait basculer l'histoire du bon côté. C'est-à-dire que ça se termine bien. Voilà, ça c'est quand même ce qu'on aime bien. Donc moi j'ai une histoire comme ça où j'ai eu le sentiment à titre personnel et collectif qu'on a fait un travail où on a été plus opiniâtre, on est allé plus loin que ce qu'on aurait dû faire peut-être. Et donc c'était simplement des gens qui étaient qui descendaient un glacier à ski. Un est tombé dans une crevasse et en fait on avait beaucoup de mal à le trouver. Et les équipes de sauvetage sont parties une fois, deux fois, trois fois, un jour, deux jours, trois jours. Et finalement, on a dit, allez, on retente encore une fois en utilisant une technique un peu moins conventionnelle qui était d'utiliser l'hélicoptère avec quelqu'un qui était au bout du câble, qui était finalement trempé dans la crevasse successivement comme voilà. Et au bout de la deuxième crevasse, avec cette technique un peu moins conventionnelle de recherche, hein, qui était vraiment d'aller au fond des crevasses pour voir ce qui se passait, on trouve la personne qui est vivante après plus de deux jours au fond de cette crevasse. Donc voilà, ça c'est une belle histoire, et c'est à la fois des décisions internes à l'équipe, mais aussi une volonté de continuer qui ont permis ce résultat. Donc voilà, ça c'est une belle histoire, mais il y en a eu d'autres. Oui.
Comme leçon de vie, vous racontez dans votre ouvrage que j'ai là, une histoire du secours en montagne. L'histoire, alors, le nom m'échappe de ce jeune homme qui était au fond d'une crevasse et qui a tenu son journal.
Guy Labour.
Guy Labour. Et on se demande s'il y a une inégalité, une injustice dans la manière dont les gens tiennent en montagne. Pourquoi les uns décèdent, pourquoi les autres tiennent. Est-ce que vous avez analysé comment on tient ? Est-ce qu'il y a une forme d'espoir qui existe là-haut ? Là-haut, je parle de la montagne.
Je pense qu'il y a deux dimensions, en fait, à la survie. Alors, j'y vais avec beaucoup de prudence, hein, parce que je pense que c'est un sujet qui est compliqué. Il y a bien sûr une dimension mentale, morale, philosophique, qui est hyper puissante. En fait, l'instinct de survie, on n'a pas le même. Il y a des gens qui vont, une nuit, ils vont mourir, et puis d'autres qui vont tenir cinq jours dans les mêmes circonstances. Donc il y a une forme d'inégalité qui est hallucinante. Donc il y a eu cette histoire de cette jeune femme, Gaëlle Cavalier, il n'y a pas très longtemps, qui a tenu 100 heures dans une crevasse quasiment au sommet de l'aiguille verte à 4000 mètres d'altitude. Et Gaëlle, en fait, c'est la foi. Elle était très, très croyante. Donc clairement, elle a eu un dialogue avec Dieu. Elle a eu une relation extrêmement intime qui l'a fait tenir. Donc ça, c'était quelque chose qui est très dans le champ de l'espérance et de la religion et de la foi. Donc ça, c'était un élément. Mais il y a quand même aussi cette dimension physiologique qu'il faut pas oublier. Il y a des gens qui sortent indemnes d'histoire, alors que d'autres vont être amputés, vont avoir des gelures terribles. Je pense qu'en montagne, on le voit très fort, cette dimension-là. Souvenez-vous aussi de l'histoire de cette alpiniste française en Himalaya, Elisabeth Revol, qui était avec un compagnon polonais qui était très fort, hein, qui avait fait plein de 8000, hein, des ascensions très difficiles en Himalaya. Et voilà, elle résiste à plus de 8000 mètres d'altitude à des conditions dantesques. Donc il y a une très grande inégalité des humains entre eux par rapport à cette question de la survie.
Est-ce que, vu de l'extérieur, quand on n'est pas dans le monde de la montagne, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent, on peut penser que les gens qui se mettent en danger, Est-ce qu'ils doivent être sauvés? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes dit, je risque ma vie pour quelqu'un qui, en fait, n'a pas fait attention? Et est-ce que c'est un droit d'être secouru? Est-ce que secourir, c'est un devoir? C'est des questions, j'imagine, qui paraissent peut-être évidentes pour vous, mais qui se posent en disant, voilà, tu vas trop loin, tu prends des risques, et quelqu'un derrière va risquer sa vie pour venir te sauver.
Alors ça, c'est une question qu'on a effectivement très souvent, parce que le coût humain de ces sauvetages en haute montagne, il est très élevé. C'est-à-dire qu'il y a une exposition au risque des sauveteurs qui est élevée. Presque chaque année, il y a des morts, que ce soit... quelle que soit l'origine de l'organisation qui est concernée par ça. Donc oui, il y a une dangerosité. Et en même temps, un professionnel de la montagne, qu'il soit guide de haute montagne, qu'il soit secouriste, c'est censé quand même agir en conscience, en réduisant les risques au maximum. Donc faire le lien entre l'inconséquence des gens qui pratiqueraient la montagne sans prendre de précautions suffisantes et le fait qu'ils n'auraient pas droit à être sauvés, ce lien de corrélation, on a toujours refusé de le faire, parce que ça voudrait dire que même quand on est malade, quelque part, quelqu'un qui est malade, il peut être malade parce qu'il est malade, mais il peut être malade parce qu'il a eu une mauvaise hygiène de vie toute sa vie durant, il n'a pas fait assez de sport, etc. Donc est-ce que la sécurité sociale rembourse quelqu'un qui a trop bu, qui a mangé trop gras toute sa vie, trop fumé? Voilà, donc c'est la même question. Donc est-ce qu'on met un lien de corrélation entre les circonstances qui ont conduit à l'accident, l'accident de santé ou l'accident en montagne, et le droit à être secouru? Nous, on a toujours répondu non. Et il faut absolument répondre non, parce que quand on commence à faire de la discrimination au droit au sauvetage, on rentre dans une logique soit de sauver que les gens qui sont solvables, au sens économique du terme, qui ont une assurance, qui sont capables de payer. Donc ça, c'est quand même une discrimination qui est terrible. Soit on rentre dans des discriminations qui seraient sur les circonstances de l'accident. Qui peut juger que quelqu'un est imprudent en haute montagne, sachant que c'est un environnement qui est extrêmement dangereux? Donc il faut se souvenir quand même que la Croix-Rouge, elle a été créée par Henri Dunant à la suite de la bataille de Solferino pour porter assistance à toute personne, quel que soit le sexe, quel que soit le genre, et quelles que soient les circonstances qui ont conduit à être en difficulté. Ça, c'est vraiment la philosophie de la solidarité. Il faut surtout pas l'oublier, évidemment.
J'avais une autre question pendant vos missions de sauvetage. À quel moment on renonce à la mission et qu'est-ce qui se passe? Alors, j'imagine que les cas sont extrêmement variés, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des sauveteurs quand on dit là, on renonce?
La culture du renoncement, c'est quelque chose qu'on essaie de plus en plus de pousser dans la culture, mais pas que des sauveteurs, des guides aussi. Parce qu'en fait, aucune montagne ne vaut une vie. Aucune montagne ne vaut une vie, aucun sauvetage ne vaut la perte d'une vie d'un sauveteur. Si à un moment donné, le collectif de décision qu'on a évoqué tout à l'heure, qui prend la décision de s'engager ou de ne pas s'engager, ressent l'idée qu'on expose trop l'équipe à un risque imminent, bien sûr qu'il faut renoncer. Donc, apprendre à ces jeunes sauveteurs qui sont en pleine forme, qui ont plein d'énergie, qui ont beaucoup d'audace, qui aussi ont le sens du sacrifice et l'esprit de la mission, à renoncer, c'est vraiment une question assez fondamentale. Donc oui, il faut être capable de renoncer. C'est un travail collectif, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui doit le faire le plus en consensus possible. En fait, ce mot, il est hyper important. Je pense que dans les hôpitaux, on parle de conférence de consensus pour décider de ce qu'on fait pour un patient. Dans le secours en montagne, c'est pareil. On a une sorte de conférence de consensus pour se mettre d'accord sur le renoncement qu'on va avoir en repoussant la mission peut-être dans quelques heures, peut-être le lendemain, on y retournera dans des circonstances plus favorables.
Alors depuis 2017, vous avez créé Mountain Pass, qui est une société de conseil en altitude ou de formation en altitude. Qu'est-ce que vous faites et que peut apprendre la montagne, l'altitude, dans notre vie, dans l'engagement et dans l'entreprise?
Nos sociétés sont déconnectées de la nature. C'est-à-dire qu'on vit assis dans des bureaux, devant des ordinateurs. Pas tout le monde. Il y a des gens qui sont encore, il y a encore des agriculteurs qui sont dehors. Il y a encore des métiers qui sont au contact de la nature, mais très peu finalement. Si on prend l'humanité tout entière sur les presque 9 milliards d'habitants, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont quand même dans des lieux urbains et devant des ordinateurs et assis. Donc déjà, le simple fait de se remettre debout, de marcher, de redécouvrir la nature, les glaciers, les rochers, etc., en soi, c'est un bénéfice universel. Alors pour les entreprises, parce que c'est la question, en quoi l'expérience de la montagne peut être utile? Parce que en fait, la montagne, c'est la métaphore de la complexité, c'est la métaphore de la camaraderie, c'est la métaphore aussi des justes besoins. On peut pas porter des valises pleines de choses inutiles quand on va en montagne, donc c'est un peu l'école de la frugalité. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est des manières d'aborder les questions de leadership, comment on peut guider son équipe, s'accorder vers un sommet, comment on peut s'adapter, comment on peut prendre les bonnes décisions. Mais on se rend compte en fait qu'ils y croient pas au départ, au parallèle entre la montagne et l'entreprise. Ils se disent, mais non, on vient faire un séminaire récréatif. Et en fait, en creusant à travers les études de cas, ce qu'on appelle la démarche d'apprentissage expérientiel, l'experiential learning, qui est de dire on commence par de la mise en pratique, on débrief, on sort les points qui sont essentiels, et après on les met en travail et en pratique dans les organisations qui viennent nous rendre visite. Et ben en fait, on peut transformer la culture des organisations, on peut faire émerger un leadership beaucoup plus attentif aux autres, beaucoup plus conscient et engagé, parce que c'est un terme qui vous est cher aussi, engagé dans les choses qui ont de l'importance, c'est-à-dire la dimension durable de notre avenir collectif, le bien commun, la qualité du lien, la fraternité, la camaraderie, sont des valeurs qui sont émergentes en quelques minutes, quelques heures passées en montagne. Tout ça, ça ressort de manière extrêmement forte.
On arrive à la fin de notre entretien et je vais vous poser la question rituelle de notre podcast Les Engagés, qui est: si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous, Blaise ?
Moi, il y a une personne que j'aime bien. Alors, je suis resté dans le champ de la montagne et du secours. J'aurais pu totalement aller ailleurs, vers la mer ou d'autres environnements. J'avais quand même envie de proposer quelqu'un qui était en contact avec la nature. Là, je pense à une femme qui est médecin du secours en montagne, quelqu'un qui a été très engagé, qui est aussi impliqué dans des associations qui accompagnent, qui font de la prévention, etc. Elle s'appelle Sonia Popov, une femme qui a une profondeur de pensée dans sa manière de regarder et la montagne et son métier de médecin, qui serait une belle personne pour incarner votre démarche autour du thème des engagés.
Merci beaucoup Blaise Agresti pour cet entretien. Pour compléter cette écoute, je vous recommande chaudement d'écouter votre podcast en 11 épisodes, je crois, qui s'appelle Learn from Altitude, qui est un podcast où vous retirez de véritables leçons de vie à partir de grands événements de l'histoire du sauvetage en montagne et qui a été fait par une radio de Chamonix, en collaboration avec une radio de Chamonix, qui est Radio Globule et qu'on va mettre en lien de ce podcast. Merci beaucoup Blaise.
Merci à vous Aude et puis bonne continuation.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur Apple Podcasts et Spotify. À bientôt.